France Culture.
Mais tout de suite, on retrouve le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Quand la Chine promet de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout, l'administration Trump assure en revanche rester ouverte à la négociation avec l'Union européenne. En attendant, la plupart des bourses sont reparties à la hausse ce matin, ce qui n'empêche pas, on le verra, les acteurs financiers américains notamment d'exprimer leur ras-le-bol. Une nouvelle annonce spectaculaire venue des États-Unis hier. Donald Trump a créé la surprise en annonçant que son pays menait des discussions directes avec l'Iran. Emmanuel Macron poursuit sa visite en Égypte. Quelle place pour l'Europe dans la reconstruction de la bande de Gaza? On posera la question à notre invité aujourd'hui, Jean-Paul Chagnolot, politologue, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée, Moyen-Orient. Enfin, l'actualité en France, c'est notamment ce rapport accablant publié ce matin sur l'aide sociale à l'enfance. Après la spectaculaire dégringolade d'hier, les bourses ont fini par reprendre leur souffle ce matin, et ce, malgré le manque de visibilité, toujours sur les conséquences à plus ou moins long terme, induites par les droits de douane ubuesques imposés par les États-Unis au reste du monde. Et forcément, dans ce contexte bien malin, celui ou celle qui pourrait anticiper dans les jours à venir quelle sera la célérité du mouvement des différentes places financières, comme le niveau de volatilité des marchés encore assez largement hébété. Seule certitude, face à toutes ces turbulences, beaucoup de voix critiques commencent à se faire entendre, et parmi elles notamment le ras-le-bol donc des acteurs financiers et autres multimilliardaires aux États-Unis. Claude Guibal, bonjour.
Bonjour.
Ceux qui espéraient tirer profit du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, comme ce fut effectivement le cas d'ailleurs aussitôt après son investiture, commencent désormais à déchanter. Et c'est ainsi que depuis quelques jours, certains tentent de ramener le président américain à la raison.
Oui, et ce sont les dirigeants de plusieurs grandes banques internationales comme Barclays, HSBC ou encore Citigroup qui ont ouvert le bal dimanche en s'appelant pour évaluer les conséquences de ce choc économique. Et c'est le patron de JP Morgan, le premier, qui s'est fendu d'une lettre à ses actionnaires en les prévenant du risque immédiat d'inflation. La banque envisage désormais 60% de risque de récession. Une situation qui est donc très difficile pour les milieux d'affaires américains pris en étau entre leur loyauté à Donald Trump et leur portefeuille qui dévisse. Donald Trump immédiatement leur a répliqué sur les réseaux sociaux, ne soyez pas faibles, ne soyez pas timides. Mais la violence des conséquences fait bouger jusqu'à Elon Musk, qui a perdu 35 milliards de dollars depuis l'annonce de ses droits de douane. Il dit avoir tenté de faire réfléchir Donald Trump en lui proposant une zone de libre-échange avec l'Europe. Il espère en effet que l'Union européenne et les États-Unis puissent aboutir à une situation de droits de douane nulle entre eux.
Alors, parmi toutes ces voix qui protestent, on peut citer encore le célébrissime financier Warren Buffett, l'ex-secrétaire au Trésor Lawrence Summers, et puis un multimilliardaire, Bill Ackman.
Bill Ackman, oui, c'était un fervent soutien du président américain. C'est un patron d'un gros fonds d'investissement de Wall Street, gros contributeur de la campagne présidentielle. Et lui, ce qu'il dit, c'est « Ce n'est pas ce pourquoi nous avons voté. Le président est en train de faire perdre la confiance des dirigeants d'entreprise à travers le monde. » Bill Ackman, lui, ce qu'il suggère, c'est une suspension de 90 jours, en fait, le temps de négocier, de résoudre les accords douaniers, certes injustes et asymétriques selon lui, mais des droits de douane supérieurs à 10% lui semblent catastrophiques. Il parle même d'un hiver nucléaire.
Merci Claude Guibal. Alors au-delà des voix critiques qui s'enchaînent, certains cherchent désormais la parade. Ce matin, la Chine a promis de combattre les droits de douane américains jusqu'au bout, malgré la menace de Donald Trump de nouvelles surtaxes, ou quand les deux premières économies mondiales semblent prêtes à croiser le fer. Quant à l'Union européenne, elle s'est vue opposer hier une fin de non-recevoir à sa proposition pour échapper aux droits de douane américains, même si l'administration de Washington assure néanmoins rester ouverte à la négociation. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de France Culture à Bruxelles, hier, l'UE avait proposé une exemption des droits de douane totale ou réciproque pour les produits industriels, dont les voitures. Pas suffisant, ont rétorqué les États-Unis. Malgré tout, cet épisode, Fabien, témoigne d'une chose, la volonté aujourd'hui du vieux continent de se battre en alternant main tendue d'un côté et menace de l'autre.
Oui, une tactique de négociation que les Européens espèrent gagnante face à un Donald Trump imprévisible et semble-t-il toujours buté sur la date de demain pour faire entrer ses droits de douane en vigueur qu'il estime réciproque. Le contact n'est pas rompu, explique la Commission, qui souhaite maintenir la pression en agitant des menaces de représailles, taxation des géants du numérique, tarifs douaniers ou encore restrictions d'accès aux marchés publics européens pour les entreprises américaines. Beaucoup d'options sont encore sur la table. Certains pays, comme la France et l'Allemagne, poussent pour que cette pression soit maximale et que les menaces de représailles soient les plus lourdes possibles. Donald Trump ne comprend que le rapport de force, me glissait ce matin un diplomate. Quant à son espoir de voir les Européens lui acheter plus de gaz et de pétrole, il l'a évoqué hier, on n'en est pas du tout là côté européen, au moment où l'Union cherche justement à renforcer sa souveraineté, notamment énergétique, tout en voulant tenir bon sur ses objectifs de décarbonation.
Et puis dans ce bras de fer avec les États-Unis, les Européens ont aussi une autre carte à jouer, Fabien, celle de la diversification pour contourner donc les Américains.
Oui, c'est un autre pilier de la stratégie européenne de réponse à Donald Trump. Les contacts se sont multipliés ces derniers mois avec d'autres partenaires commerciaux, sans doute appelés à prendre plus de poids dans les échanges européens à l'avenir. L'Inde, le Mexique, le Mercosur, les partisans de cet accord commercial si décrié en France donnent de la voix à Bruxelles pour appeler à sa ratification rapide. L'Union européenne discute même avec la Chine, avec qui les rivalités commerciales avaient pourtant culminé à l'automne dernier avec l'instauration de droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois. L'épisode semble maintenant bien lointain. La présidente de la Commission européenne vient de discuter ce matin par téléphone avec le Premier ministre chinois, évoquant leur responsabilité commune face aux perturbations majeures causées par les droits de douane américains. Ce sont les mots de la Commission, qui souhaite également s'entendre avec la Chine pour que les produits surcapacités capacitaires chinois ne viennent pas déferler sur l'Europe s'ils ne trouvent plus de débouchés aux États-Unis.
Merci Fabien Cazot en direct de Bruxelles.
Sous le feu des missiles russes, les Ukrainiens dénoncent une parodie de processus de paix.
Depuis quelques jours, les frappes de l'envahisseur se multiplient contre plusieurs grandes villes, dont la capitale Kiev, mais aussi à Kryvyi Rih, la cité natale du président Zelensky. Vendredi dernier, 20 personnes, parmi lesquelles 9 enfants, y ont perdu la vie ou quand les pourparlers initiés par Washington à la faveur d'un rapprochement spectaculaire avec Moscou semble plus que jamais au point mort, au propre comme au figuré. Hier, Donald Trump lui-même a dit son mécontentement face à ces bombardements continus. Et que dire à présent des discussions censées s'ouvrir samedi prochain dans le sultanat d'Oman entre officiels américains et iraniens sur le programme nucléaire de Téhéran. Hier, Donald Trump a surpris tout le monde en annonçant des négociations directes à un très haut niveau, ce qui, le cas échéant, serait du jamais vu en 10 ans. Alors déjà, la République islamique, conformément à sa ligne qui à ce stade rejette tout contact bilatéral, préfère parler d'échanges indirect, et puis surtout ce possible ravivage d'une forme de diplomatie donc entre les deux pays intervient dans un contexte régional explosif. Dès lors, comment faut-il interpréter cette nouvelle annonce spectaculaire de la Maison Blanche? Élément de réponse avec Christian Chéneau.
On sait que le dossier du nucléaire iranien est une question majeure pour Donald Trump, un dossier qu'il connaît bien, lui qui avait déchiré l'accord de Vienne en 2018, le JCPOA. Aujourd'hui, pour son deuxième mandat, la donne a changé, en pire d'ailleurs, puisque l'Iran non seulement n'a pas freiné son programme nucléaire, mais l'a au contraire accéléré. Donald Trump n'est favorable ni à une aventure militaire, ni à une nouvelle grande négociation internationale comme celle de 2015. Il veut un tête-à-tête diplomatique avec l'Iran pour pousser Téhéran à un deal. Face à lui, les Iraniens sont à la fois prudents et inquiets. Ils savent que la moindre erreur d'interprétation, le moindre faux pas de leur part pourrait leur coûter très cher. Ils ont déjà pris des coups ces derniers mois avec l'affaiblissement du Hezbollah au Liban, la chute de leur allié Bachar al-Assad en Syrie, les rebelles houthis au Yémen qu'ils soutiennent et qui ont subi d'importants bombardements américains ces dernières semaines. Un diplomate iranien me confiait récemment qu'il existe aujourd'hui une petite fenêtre d'opportunité pour arriver à un deal d'ici l'été, sachant que l'accord de Vienne prend juridiquement fin en octobre. Une session de pourparlers est donc prévue samedi prochain dans le sultanat d'Oman. Il s'agit autant d'une opportunité que d'un test. La balle est dans le camp de l'Amérique, a fait savoir Abbas Araghchi, le patron de la diplomatie iranienne. Si les Iraniens sont prêts à discuter avec l'Amérique de Trump, ce n'est pas pour renoncer à leur programme nucléaire et encore moins au droit à l'enrichissement qu'ils maîtrisent désormais.
Depuis que la décision du gouvernement de Benjamin Netanyahu le mois dernier de renvoyer brutalement le chef de la sécurité intérieure avait relancé la contestation contre l'exécutif accusé par l'opposition israélienne de dérive dictatoriale, nombreux étaient ceux à attendre que la Cour suprême statue sur la légalité de cette révocation. Or ce matin, une demi-heure seulement après son ouverture, l'audience publique a dû être suspendue à la suite de nombreuses altercations et autres invectives dans la salle entre partisans du gouvernement et opposants.
Pendant ce temps, Emmanuel Macron poursuit, lui, sa visite de deux jours en Égypte.
Oui, le chef de l'État se rendra aujourd'hui dans le nord de la péninsule du Sinaï, à une cinquantaine de kilomètres du point de Rafah, à la frontière avec l'enclave palestinienne. Alors cette rare visite d'un dirigeant européen aux confins de la bande de Gaza aura surtout pour but d'appeler à une reprise de l'aide bloquée par Israël. Mais avec quelle chance d'y parvenir, pour le savoir? Invité de la rédaction aujourd'hui, Jean-Paul Chagnolo, politologue, professeur émérite des universités et président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Est-ce que la diplomatie française dispose de suffisamment de leviers aujourd'hui pour permettre une reprise de l'aide humanitaire aux Gazaouis face au blocus israélien, ou bien diriez-vous que cette visite est d'abord et surtout symbolique ?
Non, je crois que c'est important que le président Macron prennent cette initiative. Il est assez isolé en Europe et de manière générale, il y a peu de puissances qui vraiment prennent position fermement. Donc je crois que c'est important, cette démarche. Évidemment, elle est très difficile et les résultats sont loin d'être acquis. Mais il le fait aussi pour appuyer l'Égypte et la Jordanie, qui sont quelque part très impliqué dans tout cela, puisque le plan Trump prévoyait l'évacuation forcée, donc en fait une déportation des Gazaouis, où ça ? Eh bien, vers l'Égypte ou vers la Jordanie, ce que ni le Caire ni Amman ne peuvent accepter, car évidemment, pour plein de raisons, y compris évidemment des conflits internes, ça serait une déstabilisation. Donc je crois que cette initiative est la bienvenue, on verra ce que ça peut donner, mais c'est important en soi.
On sait combien Emmanuel Macron aime à se poser en chef de file de l'Europe. On se souvient notamment de sa posture aux prémices de la guerre en Ukraine. Et pourtant, vous l'évoquiez, le réel poids diplomatique aujourd'hui de la France au sein de l'UE ne sera sans doute pas suffisant pour convaincre ses homologues.
Écoutez, je crois que je ne sais pas s'il est nécessaire d'aller convaincre ses homologues. Nous sommes dans une démarche qui ne peut fonctionner qu'à quelques États. L'Union européenne est au fond très largement dépassée par tout ça. Elle a en plus d'autres priorités, notamment ce qui se passe sur le plan commercial et évidemment l'Ukraine. Donc je crois que ça ne peut être le fait que de quelques pays européens, avec la France en première ligne, et puis surtout la France s'appuyant sur d'autres pays arabes et en appuyant le plan qui a été le plan de reconstruction de Gaza, qui a été mise en place par la Ligue arabe, proposé par la Ligue arabe. Et je pense que l'autre acteur arabe important, c'est évidemment l'Arabie saoudite. Et il est prévu qu'il y ait une conférence qui va prolonger tout ça à New York, à l'initiative de la France et de l'Arabie saoudite. Donc ça, c'est important. Mais juste un mot pour dire qu'avant de parler de reconstruction, d'ailleurs, il faudrait empêcher la continuité de la destruction. Et c'est aussi le but de la visite.
Et quels pourraient être ces quelques autres pays donc qui pourraient politiquement s'exprimer d'une seule et même voix pour sauver des principes d'ailleurs qui font le socle même de la construction européenne ?
Ben écoutez, je crois qu'au-delà de l'Union européenne, peut-être que Londres a pris des positions intéressantes, peut-être l'Espagne qui a reconnu l'État de Palestine. Évidemment, on pense à Berlin, mais Berlin a ses propres contradictions par rapport à Israël, et on peut le comprendre. Hein, c'est toute l'histoire de ce pays avec la Shoah, et ça pèse considérablement sur toute la politique étrangère de l'Allemagne. Chacun le sait. Donc voilà, je crois que c'est quelques pays européens, avec certains pays arabes, l'Égypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite et peut-être le Qatar, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est la seule possibilité d'aller contre ce que veut faire Trump et ce que laisse faire Trump, notamment l'actuel gouvernement Netanyahou peut faire ce qu'il veut y compris ces destructions et cette volonté de, en fait, annoncer de chasser une bonne partie des Gazaouis.
Une dernière question, monsieur Chagnolo. Selon l'ONU, plus de 53 milliards de dollars sont nécessaires aujourd'hui pour reconstruire Gaza. On se souvient que l'Union européenne avait été le premier donateur aux Palestiniens en vue de la création d'un État palestinien. C'était fin 2008. L'année précédente, les 27 avaient versé un montant de l'ordre d'environ 1 milliard d'euros aux Palestiniens. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que l'Europe est prête à financer cette reconstruction? Et si oui, en a-t-elle les moyens sans les États-Unis?
Vous savez, je crois que trouver de l'argent, les Européens savent faire. Mais la vraie question, elle est politique. Et il faudrait déjà qu'ils obtiennent un cessez-le-feu, le retour de l'aide humanitaire. Et ensuite, on verra. Mais c'est déjà tout à fait fondamental. Bien souvent, l'Europe a payé beaucoup de choses. Et à payer des constructions de bâtiments, par exemple, comme l'aéroport de Gaza il y a bien longtemps, et tout ça a été détruit. Donc il faut d'abord passer par le politique et un engagement politique, et c'est ça qui est essentiel. Et c'est peut-être par l'initiative qui est en cours en ce moment avec quelques pays, pas avec toute l'Union européenne, qu'on peut espérer aller dans le bon sens. Mais il y a le chemin à parcourir est évidemment encore extraordinairement long, et en attendant, il y a cette guerre terrible et ces morts de civils palestiniens tous les jours.
Et on terminera par ces mots. Merci Jean-Paul Chagnolo, politologue, professeur émérite des universités et président, je le rappelle, de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aline Biette pour la préparation.
Le projet de loi sur la simplification de la vie économique arrive aujourd'hui devant l'Assemblée nationale.
Oui, un projet censé être plutôt consensuel et donc transpartisan dès lors qu'il vise à alléger la profusion de normes, de commissions et de comités en tout genre. Or, il est en train de se transformer en véritable champ de bataille. Pourquoi? Parce que la gauche y voit potentiellement une arme de dérégulation de gros calibre, en particulier lorsque la droite, elle, entend profiter de cette loi pour alléger, par exemple, le droit de l'environnement. Et que dire plus spécifiquement des usagers? Jusqu'à quel point sont-ils, eux, concernés ou non par cette loi? Élément de réponse avec Annabelle Grelier.
L'idée du gouvernement, c'est qu'à chaque point de contact avec le public, sous-préfecture, brigade de gendarmerie, hôpital ou caisse d'assurance maladie, les usagers puissent évaluer les délais, l'accueil ou encore la complexité des démarches. Rien de très neuf, la plateforme Service Public Plus existait déjà, elle sera donc réactivée. Le gouvernement s'engage à répondre à leurs remarques et observations sous 8 jours. Il prévoit également des ateliers où usagers et agents administratifs travailleront ensemble à la simplification. Du côté de l'administration, un contrôleur des normes et des procédures, un haut fonctionnaire, sera nommé dans chaque ministère d'ici à l'été pour faire la chasse aux normes inutiles et redondantes, précise le gouvernement. Le principe du « dites-le-nous une fois » devrait être instauré afin de ne pas redemander aux usagers les informations dont disposent déjà d'autres administrations, les fameux formulaires pré-remplis déjà en place pour la déclaration de revenus, la demande de RSA et les pensions de réversion notamment. Enfin, pour que les usagers ne soient plus face au mur de l'administration, un amendement du Rassemblement national visant à communiquer aux usagers le numéro de téléphone et l'adresse mail directe du service public chargé d'instruire leurs demandes a déjà été voté en commission. Le rapporteur a toutefois pointé un risque de harcèlement par les citoyens ainsi qu'une potentielle irrecevabilité budgétaire de la mesure.
La protection de l'enfance, qui hier déjà était à bout de souffle, se retrouve aujourd'hui dans le gouffre. C'est ce qui ressort du rapport final publié ce matin par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, laquelle, face à l'urgence absolue, prône notamment une loi de programmation et un renforcement des contrôles. Alors, il se trouve que la ministre de la Famille, Catherine Vautrin, avait elle-même déjà avancé plusieurs pistes pour mieux prévenir le placement des enfants et aider les assistants familiaux ou bien encore suivre la santé des jeunes placés. Sauf que face aux promesses non tenues dans ce domaine, eh bien, un appel à la mobilisation nationale le 15 mai prochain a d'ores et déjà été lancé par un collectif réunissant une 60aine d'associations et de fédérations. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de l'Assemblée nationale où depuis ce matin, Anne, le comité de vigilance des enfants placés composé d'anciens jeunes de l'ASE manifeste devant le Palais Bourbon pour témoigner donc des dysfonctionnements de la protection de l'enfance.
Pour
les enfants placés !
Oui, ils sont une cinquantaine avec des pancartes noires. Sur l'une d'entre elles est écrit « Lily, 15 ans, morte à l'ASE en 2024 ». La jeune fille s'était pendue après avoir été placée dans un hôtel. Agnella Lanawar fait partie du comité de vigilance des enfants placés et elle dénonce les maltraitances qui peuvent conduire à ces cas extrêmes. Elle a été placée de ses 2 ans à ses 19 ans et demi.
Ma mère a été sous le système de protection de l'enfance, ma grand-mère également à l'époque sous assistance publique d'AS. Donc déjà pour moi, c'est ne serait-ce que mon vécu est déjà une violence institutionnelle et déjà une grande révélation des failles qu'il y a actuellement encore. J'avais en effet un placement judiciaire, donc après une décision, après des faits qui avaient été révélés et constatés, j'ai quand même dû jusqu'à mes 9 ans être en contact avec des week-ends, des vacances, etc., avec des personnes que nous savions et qui avaient été condamnées pour maltraitance.
Alissa Denisova poursuit, elle a été placée à l'âge de 16 ans.
À un moment donné, je quitte un foyer, il me cherche un nouveau foyer et en fait, il n'y en a pas, il n'y a pas de place. Donc du coup, je me suis retrouvée à 16 ans sans domicile fixe pendant 7 mois et donc avec tous les dangers auxquels on est confronté quand on est une jeune fille de 16 ans à la rue. J'attends beaucoup de choses des autorités, qu'il n'y ait plus de rupture de parcours parce que ça déstructure complètement le psychisme des enfants et ce n'est pas normal, c'est inadmissible.
Et il y a tant à dire que ces anciens enfants placés sont réunis actuellement à l'intérieur de l'Assemblée nationale pour une conférence de presse car ils l'exigent, il faudra un avant et un après ce rapport parlementaire.
Merci Anne Fauquemberg en direct donc de l'Assemblée nationale ainsi qu'à Nicolas Mathias pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi, toujours ensoleillé sur la majeure partie du pays à l'exception des Pyrénées et du sud-est méditerranéen où les nuages resteront menaçants. Quant aux températures, elles seront comprises entre 13 et 25 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.